Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir à tous, chers auditeurs, et nos excuses pour ce petit retard indépendant de notre volonté. Eau douce au Mali, comment éviter le drame? C'est le titre du grand dialogue de ce soir. L'eau est source de vie. Malgré tous les efforts consentis par les autorités, 1280 villages, fractions et sites pastoraux dont la population est comprise entre 1 et 2000 habitants n'ont pas accès à un point d'eau potable au Mali. Les dommages environnementaux sont-ils à l'origine des crises liées à l'eau au Mali? Est-ce que l'eau est accessible à toute la population au Mali? Que faut-il faire pour permettre une meilleure gestion de cette eau au plan local? Nous allons essayer de plancher sur ça avec nos invités. Ibrahim Guindo, il est directeur de la distribution à la SOMAGEP. Karim Dambélé est géophysicien et hydrogéologue. Il sera là en tant qu'analyste. Et monsieur le maire de la commune de Gwendiaga, Amara Traoré, sera au téléphone. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation.
Le grand dialogue.
Demain, jeudi 22 mars, le Mali, à l'instar du monde entier, fêtera la journée mondiale de l'eau. Alors, monsieur Ibrahim Guindo, quelles sont les différentes sources d'eau au Mali?
Merci, monsieur Sidibé, pour avoir donné l'opportunité d'exprimer. À travers l'occasion de la journée mondiale de l'eau qui est célébrée le 22 mars de chaque année. Et au Mali, en fait, les ressources en eau sont diverses et principalement deux. Donc, il y a les ressources en eau de surface et les ressources en eau souterraines. Donc, ce sont les deux principales ressources en eau qui sont quand même exploitées au Mali.
Karim Dambélé, est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à cela?
Oui, comme je merci d'abord de m'avoir donné l'occasion de donner mon point de vue par rapport à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Effectivement, comme M. Guindo le disait, effectivement c'est ça, mais en gros il faut comprendre que l'essentiel de l'eau au Mali, c'est l'eau de pluie. L'essentiel de l'eau au Mali, c'est l'eau de pluie. Voilà, donc c'est cette eau de pluie qui est répartie en deux parties, comme l'a dit, l'eau de surface qui constitue l'eau au niveau des fleuves, des marigots, ainsi de suite, et l'eau souterraine qu'on exploite à partir des forages. Essentiellement, c'est ça.
Ok. Mm-hmm. Mais quels sont les acteurs qui interviennent dans la gestion de l'eau?
Bon, au Mali, les acteurs qui interviennent dans la gestion de l'eau au Mali, il y a la Direction nationale de l'hydraulique qui définit la stratégie par rapport à l'approvisionnement en eau. Il y a la SOMAGEP, SOMAPEP, qui est la Société du patrimoine de gestion de l'eau potable au Mali, et la SOMAGEP, la SOMAGEP qui est chargée de la distribution de l'eau potable au Mali. Ça, c'est en milieu urbain. Maintenant, en milieu rural, il y a essentiellement les communes. C'est les communes qui gèrent l'approvisionnement en eau potable au Mali, essentiellement par les comités de gestion d'eau, essentiellement en milieu rural.
Ok. Amara Traoré, vous, à partir de Kalana, précisément dans la commune du Gwendiaga, quels sont les acteurs qui interviennent dans la gestion locale de l'eau à Gwendiaga?
Merci bien, M. Sidibé. Je remercie d'abord le sujet Taman pour avoir pris cette occasion de la journée mondiale de l'eau pour qu'on revienne sur un problème crucial aujourd'hui des collectivités territoriales. En ce sens que, comme vous venez de le dire, les acteurs de l'eau, c'est pour vous dire qu'actuellement, il y a beaucoup d'acteurs de l'eau, en ce sens que les communes urbaines ou les grandes cités ont des installations, des AIS, additions d'eau sommaire, ou encore des AIEP qui fonctionnent actuellement dans beaucoup de villages. Mais aussi, au-delà de tout ça, également la gestion des forages qu'on appelle pompes à motricité humaine, qui sont aussi les sources de ravitaillement en eau potable de presque tous les villages. Donc, pour dire que du village jusqu'à la cité, la communauté intervient dans la situation.
Oui, on a tantôt signalé que ce sont des comités de gestion qui sont au niveau de la commune. Est-ce que au niveau de la commune de Guanyaga, comment cette gestion se porte dans votre commune?
Bien, précisément chez moi à Kalana, il y a le comité de gestion et l'installation de l'AIEP. Nous avons un comité de gestion qui a quand même cette preuve, puisque depuis 2016, nous avons reçu une addition d'eau, un château d'eau. Je sens que sa gestion dépend d'un comité de gestion qui, aujourd'hui, est composé d'hommes et de femmes qui ont vraiment le souci de l'humanité. Et tout cela est placé sous l'autorité du maire. Merci.
Ok. Alors, Ibrahim Guindo, au niveau de la SOMAGEF, je signale que la SOMAGEF, quand même, c'est un acteur clé, quand même, de la distribution de l'eau potable au Mali. Où en sommes-nous avec le système d'adduction d'eau au Mali?
Merci. Le système d'adduction d'eau au Mali, au niveau, en fait, de la SOMAGEF, qui a vu le jour en 2010, suite à la réorganisation du cadre institutionnel du secteur de l'eau. Et donc, au niveau du départ, la SOMAGEP gérait 18 centres. Et depuis 2017, il y a quand même un élargissement du périmètre d'affermage de la SOMAGEP qui est en cours et avec environ une soixantaine de nouveaux centres qui sont en cours d'intégration dans le périmètre d'affermage de la SOMAGEP, dans le périmètre de concession de la SOMAPEP également. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la situation de l'alimentation en eau dans les 18 centres qui sont gérés, qui étaient gérés jusqu'en 2017 par la SOMAGEP, globalement, on peut dire que il y a quand même des avancées, il y a quand même une amélioration de la qualité de desserte envers nos clients. Mais à certains niveaux, au niveau de certains centres, nous avons quand même des déficits tels que Bamako, où le déficit à date avoisine les 150 000 mètres cubes par jour. Donc, ce qui fait que il y a quelques difficultés à alimenter, assurer une certaine continuité de service au niveau de certains quartiers. Mais nous faisons tout quand même pour que les clients puissent disposer au moins dans les 24 heures quand même de l'eau à tous les niveaux de Bamako et également dans les centres qui sont gérés par la SOMAGEP. Donc, il y a également des actions qui sont en cours par rapport à l'augmentation de ces, ou bien au comblement de ces déficits que ce soit à Bamako, avec le projet du Kabbalah. Et également, récemment, il y a un projet qu'on appelait PADS qui a concerné 4 villes, Kai, Sikasso, Kuchala et puis Kati, où on a pu augmenter leur capacité de production.
Mais pourquoi le choix de ces 4 villes?
Le choix de ces 4 villes, en fait, c'est un programme qui rentre dans le cadre du plan d'accès à l'eau potable avec le département. Et donc, il y a en fait plusieurs volets, que ça soit un volet eau potable et assainissement, financé par la coopération d'Annonce Nouvelle-Oise. Et donc, le choix a été porté sur ces villes, compte tenu de certains nombres de déficits qu'on avait au niveau de ces villes-là.
Mais est-ce à dire que le déficit était énorme dans ces 4 villes-là, plus que dans les autres villes du pays?
Oui, bon, oui, les déficits étaient quand même assez importants dans la région de Sikasso, dans la ville de Sikasso, les déficits étaient très importants. À Kuchala, il y avait également un déficit important. Et à Kati, qui était alimenté par la ville de Bamako, était très déficitaire. Et donc, avec la réalisation de ce projet, donc ça a permis quand même d'accroître de façon significative la capacité de production, et donc pour faire face aux besoins de nos clients.
Ok. Et Karim Dambélé, vous, en tant que hydrogéologue et géophysicien, vous êtes un des acteurs aussi de non seulement la prospection, mais aussi de l'exploitation quand même des ressources en eau. Alors, où en sommes-nous d'après vous? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à l'intervention d'Ibrahim Guindo, par rapport à l'addiction, le système d'addiction au Mali?
Ok, effectivement, il y a des choses à ajouter, il y a beaucoup de choses à ajouter.
Oui, allez-y. Et
si nous sommes là aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au Mali, c'est vraiment difficile. L'État a fait beaucoup, c'est vrai, l'État a fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire. Parce que vu le taux de desserte en eau des populations, en milieu urbain, ça tourne autour de 75-80%, et en milieu rural, c'est encore pire. 44%. C'est vraiment difficile. Et je vais vous donner quelques chiffres. Quelques chiffres en ce sens pour vous édifier encore plus. Voir un peu la progression, c'est-à-dire que d'approvisionnement, que l'État, ce que l'État met en place, précisément par rapport à la SOMAPEP-SOMAGEP. De 2005, parce qu'avant c'était l'EDEM, bien sûr, mais c'est toujours dans le. Dans la même continuité. De 2005 à 2015, la SOMAGEP, SOMAPEP, la production d'eau par jour, journalier, était de 200 000 mètres cubes par jour. En 2015, c'est venu à 290 000 mètres cubes par jour.
Donc 90 000 de plus.
Ou de 90 000 de plus. Regardez sur 2005-2015, là, c'est pratiquement très faible. Très très faible, pratiquement un taux de croissance sur cette période d'environ 3,7%. Donc c'est assez énorme, mais en milieu rural, c'est encore plus difficile. Parmi ces chiffres donnés, en milieu rural, la production d'eau journalière, en milieu rural, quand on dit centre extérieur, comme il le disait, parce qu'il y a Bamako qui est le gros, mais les centres. Et sur ça, c'est dans les régions et dans les centres semi-urbains. Mais en gros, parmi tous ces centres regroupés, il y a 98 000 mètres cubes environ de production journalière pour tout le reste du Mali, hormis Bamako. Vous voyez déjà que le niveau de desserte est assez faible. Ça, c'est les chiffres qui viennent de 2015. C'est les chiffres actualisés de 2015. Il y a 2016 et 2017 qui ne sont pas encore ajoutés, mais c'est des chiffres, il faut préciser, c'est des chiffres de 2015. Donc, pour dire que, c'est-à-dire que le taux de desserte en eau au Mali, c'est assez faible. Donc, il reste beaucoup de choses à faire.
Donc, on va du côté des Kalana avant d'observer notre pause. Monsieur Amara, vous venez tout juste d'entendre, hein, dans le milieu rural, donc le taux avoisine les 40%. Alors, comment on peut expliquer quand même ce taux faible de distribution d'eau dans un milieu rural comme le vôtre?
Merci, monsieur Sidibé. Je commencerai à parler, parce que comme je vous ai dit, chez moi, je peux parler de deux systèmes. Il y a d'abord les pompes à motricité humaine, mais je préférerais parler d'abord de l'adduction de Kalana, à qui, depuis les années 2007, sa production a été conçue pour une population qui, aujourd'hui, on peut le dire, est multipliée par trois. Et au-delà de tout ça, l'adduction d'eau aussi fait pour un certain nombre de bornes. Donc, conçu dans ce sens, c'est pour dire que le village n'a cessé de grandir et la population, la concentration, l'extension du village, on était obligé d'aller à l'extension aussi du réseau d'eau. Donc, ce qui a amené vraiment une grande pénurie, en ce sens, c'était le château qui doit servir ravitailler ces différentes bornes, se remplissaient difficilement parce que nous sommes liés d'abord au système électrique, l'électricité, l'énergie du Mali, qui, en cas de coupure, met tout le système en cause. Mais Dieu merci, aussi nous sommes proche d'un fleuve qui ravitaille le château, mais plutôt des forages. Les forages effectués dans ce sens, vous savez que mon village ici, c'est une zone minière. L'exploitation des carrières, acte vers les carrières, les différentes nappes souterraines, qui a amené une pénurie d'eau dans les forages. C'est palpable, c'est comme ça. Chacun peut se rendre compte que l'exploitation des mines d'or affecte les nappes souterraines. En ce sens, les châteaux aussi sont difficilement ravitaillés par les actuels forages. C'est ainsi même qu'on a été obligé ce mois-là d'interpeller nos sociétés minières à ce qu'ils passent à d'autres réalisations de forages. Je pense que si le forage était à 50, 80 ou 100 mètres, que nous aujourd'hui, il faut aller à 150 ou 200 mètres de profondeur pour que le système ne puisse pas être perturbé. Bon, d'ailleurs, l'occasion est bonne vu la forte demande. Nous savons que ça a été une saison des plus médiocres. Donc, les cours d'eau ont vite pris et puis on carie. Donc, le besoin est grand. En ce sens que j'ai même demandé cette année à mon association, qui vraiment est ici, il est lieu de les remercier. Ensemble, on a réfléchi. Parce que la sortie de l'eau, c'était une seule sortie. Mais techniquement, on a vu qu'en allant peut-être à cette sortie, on peut encore aller à une vitesse plus croissante de l'eau. Mais cela aussi ne va pas sans inconvénient, en ce sens que le château se vide rapidement. Et si la source d'approvisionnement n'est pas ouverte, donc ce qui amène aussi des interruptions. Et souvent la population, donc c'est le lieu de rappeler à nos sociétés minières qu'ils investissent pour aller à d'autres forages plus profonds et plus performants. Donc voilà en gros, aujourd'hui la demande à nous est très forte vu la chaleur et aussi vu la faiblesse de la pluviométrie de l'hivernage dernier et nous près d'un fleuve ou d'un autre cours d'eau plus grand. Donc, toutes les sources chez nous, c'est pratiquement forage. Et actuellement, le forage ne dépassait les 45-60 mètres. Et cela a amené, franchement dit, à des difficultés de ravitaillement. Donc, aussi, sur un tempestif du courant peut affecter la distribution de l'eau puisque c'est un système conçu sur le branchement sur l'EDM. Donc voilà en gros, aujourd'hui, vraiment, Formula à Kalana et dans tous les villages où il y a encore les systèmes à pompe manuelle, les problèmes. Je suis tous les jours interpellé par la population pour ce ravitaillement. Et je crois que nous avons bon espoir que ceux là qui doivent nous aider à la solution seront à l'écoute pour dire que dans la conception désormais des forages, il faut aller à des profondeurs plus importantes. Les premiers forages, ils sont aujourd'hui presque tous à sec. La population va.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio
Tamani. Retour donc sur ce plateau pour ce grand dialogue qui porte sur l'eau douce au Mali. Comment éviter le drame avec nos invités Ibrahim Guindo, directeur de la distribution à la SOMAGEP, Karim Dambélé, géophysicien et hydrogéologue en tant qu'analyste, et Amara Traoré, il est maire de la commune du Gwandiaka. Donc, on va s'intéresser au cas particulier des régions du nord et du centre où le besoin a causé des déplacements de population à Tessit. Et pas plus qu'hier à Menaka, la population a manifesté son mécontentement pour la mauvaise gestion de cette eau. Alors, on va suivre ce reportage de Studio Tamani.
Du nord au sud, tout le monde se plaint de cette situation. Dans la commune urbaine de Menaka, où il n'y a qu'une seule adduction d'eau pour toute la population, la distribution de l'eau potable est un réel challenge pour la SOMAGEP. Nanout Kotia est le maire de la commune de Menaka.
Mais ça a un problème, parce qu'il n'y a qu'une seule réduction d'eau avec un seul château de 75 mètres cubes, et que ce château n'arrive même pas à servir toute la vie. Les quartiers périphériques de Menaka n'ont pas d'eau. Et on est obligé de faire la gymnastique pour chercher avec des partenaires tels que Barkhane, pour avoir des petits forages pour les populations.
Tout comme dans le nord du pays, le centre est également confronté au même problème. À Mopti, la population vit un paradoxe. Les habitations les plus proches des forages n'ont pas accès à l'eau potable. Issa Tapo est un habitant de Mopti.
Dans les quartiers périphériques de Mopti, là où se situent même les forages de la SOMAPEP, nous constatons que ces quartiers qui sont situés souvent à 100 mètres des forages, ces quartiers n'ont pas de l'eau potable. Les constats que nous faisons aussi dans la commune de Mopti, il y a des vieux tuyaux qui datent depuis disons 20 ans et qui sont situés dans les caniveaux. Et très souvent, ces tuyaux se cassent et puis on voit de l'eau jaillir partout et puis ça se mélange avec l'eau des caniveaux.
En 2017, 2000 systèmes d'adduction d'eau moderne ont été installés sur l'ensemble du territoire. Selon le directeur général adjoint de l'hydraulique, Djourou Bokoum, le département espère aller jusqu'à 73% de taux d'accès à l'eau potable.
2017 aller de 66,9% d'aller jusqu'à 73% du taux d'accès à l'eau potable, soit 800 000 Maliens puissent accéder à l'eau potable chaque année. Pour cela, aujourd'hui, nous comptons 86 centres repris par la gestion de SOMAPEP ou SOMAGEP. C'est ces actions qu'on est en train de réaliser au niveau de Irimadio 1008 logements, à travers la réalisation des deux forages qui dévient chacun plus de 120 mètres cubes. Et ces mêmes actions seront réalisées à Faladière, à Mayambougou, à Tabagoro, au niveau des logements sociaux.
Un programme d'urgence sociale d'accès à l'eau potable entre 2017 et 2020 a été élaboré par le ministère de l'Énergie et de l'Eau.
Alors, Ibrahim Guindo, on dit que l'eau est source de vie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces cas particuliers des régions du nord et du centre?
Voilà. Pour ces cas particuliers des régions du nord et du centre, on a parlé, je crois, du cas de Menaka.
Menaka, surtout.
Menaka, c'est un centre nouveau qui vient d'être intégré dans le périmètre de la SOMAGEP et de la SOMAPEP. Et donc, depuis, les actions ont été engagées par la SOMAGEP pour prendre en main l'adduction d'eau de Menaka. Et donc, à ce titre, un personnel a été déployé pour gérer le centre de Menaka. Mais il faut dire que la situation l'état des lieux de l'adduction d'eau tel que il y a quand même un besoin de réhabilitation et un besoin de renforcement de la production. Il y a également au niveau du réseau de distribution ce qui a été constaté, la présence de beaucoup de réseaux ficelles, c'est-à-dire que c'est des canalisations de petits diamètres qui engendrent beaucoup de pertes de charge, donc qui diminuent considérablement la pression et qui fait qu'il y a une dégradation de la qualité de la distribution de l'eau. Et donc des actions, comme je l'ai dit, sont engagées au niveau des actions d'urgence, ont été ciblées vers un certain nombre de nouveaux centres dont Menaka fait partie. Donc je crois qu'il y a eu déjà des missions de terrain également pour essayer d'approfondir
les premiers diagnostics. Monsieur Guindo, oui. Avec tous ces cours d'eau qui traversent le Mali, est-ce on peut dire que la demande dépasse l'offre?
Bon, je dirais que avec tous ces cours d'eau, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est-à-dire que la répartition la disponibilité de l'eau n'est pas équitablement répartie sur le territoire. Donc, on peut dire que en termes de disponibilité, il n'y a pas de problème, mais à certains endroits, c'est-à-dire que vous trouverez que la ressource soit difficile à accéder ou est très très éloignée. Donc, vous voyez, il y a quand même ce contraste-là qui est là, bon, qui fait que à certains endroits, on a recours aux ressources en eau souterraine, bon, avec des débits souvent qui ne sont pas très très élevés et à l'échelle urbaine. Et donc, ça amène quand même à la réalisation de plusieurs ouvrages et qui alourdissent en fait l'exploitation, qui sont l'exploitation du système. Voilà. Donc, je dirais que l'eau, la quantité d'eau, on peut dire qu'elle est suffisante, mais ça dit qu'il n'y a pas une répartition équitable à travers le territoire.
Ok. Voilà. Karim Dambélé, est-ce que selon votre constat, il y a un suivi des réalisations qui sont sur place? Est-ce que le défaut de suivi n'a pas sa responsabilité dans ces déficits-là?
Oui, bon, les suivis ont pu toujours améliorer. Mais comme il vient de le dire M. Guindo, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme vous l'avez dit, il y a la ressource. L'eau, la ressource en tant que telle ne peut pas être consommée comme ça. Ça, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a l'eau, il y a l'eau potable. C'est-à-dire que l'eau simple ne peut pas être consommée, il faut la rendre potable. La rendre potable, c'est-à-dire que c'est de la rendre consommable. Pour la rendre consommable, pour ça, il y a certaines phases qu'il faut le faire. Et c'est ce qui amène les systèmes, comme vous l'avez dit, systèmes d'addiction d'eau. Et au Mali, pratiquement, les différents types sont comme la Somajep, les stations compactes qui pompent l'eau au niveau du fleuve, qui filtrent, qui traitent, ensuite qui distribuent.
Mais est-ce qu'au niveau de ces traitements même, il n'y a pas de difficultés? Parce que récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu quand même des images d'eau de robinet, vraiment à Bamako ici, où on voit que c'est de l'eau carrément trouble.
Ok. Monsieur Guindo est là, peut-être qu'il pourra nous édifier. J'ai vu effectivement les images. Moi aussi, chez moi, j'en ai fait le constat. Parfois, je crois que souvent, c'est-à-dire que dès qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes, dès que l'eau est traitée, pour ça, peut-être lui va nous édifier beaucoup plus, mais je vais juste essayer de donner, ça dit qu'il y a un début de réponse à votre question. En fait, l'eau, quand on traite l'eau, au niveau du traitement, l'eau est traitée et il y a la deuxième phase qui consiste le transport de l'eau. C'est-à-dire que où est-ce qu'on amène l'eau? Sur ce chemin, tous ces problèmes peuvent arriver sur ce chemin. Et pour ça, le transport de l'eau, il y a des conduites qu'on installe avec sur quoi l'eau suit. C'est-à-dire que ces conduites sont en plusieurs types de matériaux. Il y a les PVC qu'on utilise, il y a les fontes, il y a les galvans. Donc, surtout les tubes galvanisés, lorsque l'eau coule par les tubes galvanisés, il y a l'effet d'oxydation qui se produit et en fait, après, ça peut donner, ça requiert certaines couleurs à l'eau.
Okay.
Donc, essentiellement, c'est ça. Peut-être que M. Guinou pourra nous édifier encore beaucoup plus.
Ok, M. Guinou, rapidement, une réaction pour ce point précis.
Oui, oui. En fait, j'ai vu également les images sur la qualité qui disent que c'est la qualité. Bon, ce que je peux dire, je crois que il faut montrer quelque chose qui semble un peu vrai quand même. Parce que quand on analyse même l'image, on voit ce qui sort du robinet par rapport à ce qui est dans le récipient. En fait, en regardant, on sent que, en fait, c'est. Je trouve que c'est du montage.
Ah bon.
Montage. Et je crois que. Non, vous avez parlé, je crois que je vais parler. Et pour ce qui concerne de la qualité de l'eau de la Soumagep, je vais quand même dire. Qu'au niveau de la Soumagep, au niveau de toutes les chaînes de production, depuis le prélèvement dans le fleuve, l'eau est contrôlée. Et les traitements sont effectués à tous les niveaux.
Mais quand vous dites que c'est un montage, est-ce que vous avez les preuves? Qu'est-ce qui vous permet d'aller sur cette base?
Sur cette base, je dis, c'est la couleur que je vois qui ne ressemble pas du tout à l'eau de la Soumagep.
D'accord.
Mais l'image également ne donne aucune preuve que c'est l'eau de la Soumagep.
Ok.
Voilà.
D'accord.
Je voudrais ajouter tout
allez-y
simplement,
rapidement,
voilà, rapidement que en fait, ce qu'il faut reconnaître par rapport à la qualité de l'eau, comme il a dit Monsieur Dambélé, vous savez, au niveau de nos installations domiciliaire, il y a beaucoup de tuyaux galvanisés qui sont utilisés. Et donc, comme il a dit, avec le phénomène d'oxydation, lorsque il y a en fait une rupture temporaire et qu'après il y a l'arrivée d'eau, et lorsque on ouvre, les premières eaux qui sortent ont une couleur un peu de rouille. Donc, ça, je crois que ça, c'est dans tous les systèmes qui utilisent, en fait, les tuyaux galvans. Donc, au niveau des installations intérieures également, il faut, je crois, sensibiliser la
population. Donc, il serait recommandé de moins
voilà,
utiliser ces tuyaux galvanisés.
Moins utiliser ces tuyaux galvans qui se rouillent. Bon, cela ne dit pas qu'au niveau du réseau de la Soumagep, nous utilisons également des tuyaux galvanisés en fonte, qui peuvent également présenter quelques dépôts. Avec les arrêts, ça peut donc se retrouver. Mais il faut reconnaître également, à travers les centres qui sont gérés par la Soumagep, nous avons en fait des points de contrôle. À Bamako, par exemple, nous avons plus de 100 points de contrôle pour s'assurer de la qualité de l'eau que nous distribuons à nos clients. En plus de cela, je vais ajouter qu'il y a le laboratoire national des eaux qui périodiquement contrôle la qualité en fait de l'eau et ces résultats sont disponibles à travers des bulletins que tout le monde peut voir.
Donc on va essayer de progresser voilà. Par rapport à ce point et retrouver Amara Traoré parce qu'il parlait tantôt de pollution d'eau dans sa commune et nous savons que les inondations et la sécheresse également, tous ces fléaux aggravent la dégradation de la végétation, des sols, des cours d'eau. Alors, quel peut être, Amara Traoré, leur impact sur le développement de votre zone?
Merci bien, M. Sidibé. C'est pour dire encore que c'est un paradoxe parce que pour beaucoup, c'est une zone de pluie. Effectivement, il pleut. Mais vous savez que la nature du sol même ne garde pas de l'eau. Pendant l'hivernage, toutes les eaux sont en ruissellement et il suffit quelques temps pour que tout disparaisse. Donc, c'est pour dire que, comme vous venez de le dire, il serait mieux pour vraiment maintenir le système. D'abord, comme je vous ai dit, c'est une zone minière. Le contrôle, effectivement, comme le disait l'autre tout de suite, il y a un contrôle régulier de certains points pour voir chez nous, ce n'est pas des tuyaux chiés, au contraire, mais pourtant, pour voir effectivement est-ce que ces exploitations minières n'affectent pas l'eau souterraine. Ce contrôle-là, quand même, est régulier, il faut le signaler. Maintenant, chez nous, ce que moi, je conseillerais comme solution, c'est de faire des retenues d'eau. Que toute l'eau qui vient pendant l'hivernage ne soit pas évacuée directement dans les fleuves et quelques mois après tomber en difficulté. Et en second plan, la solution urgente que moi, j'aurais proposée, il serait mieux que tout forage maintenant dans ces zones-là, le minimum soit au moins 100 mètres
de profondeur.
Obligatoirement, il faut 100 mètres de profondeur. Sinon, beaucoup d'autres exemples montrent que beaucoup de forages à motricité humaine dans mes villages aujourd'hui sont arrêtés. Ce n'est pas par manque de pièces, mais c'est uniquement où l'eau qui sort est trouble, parce que ça, c'est dû au niveau bas de l'eau. Et tant que le pompage est régulier, souvent, le besoin est trop grand, donc le pompage amène à un changement de couleur d'eau. Directement, on comprend que le niveau a trop baissé dans le forage. Donc, ainsi, comme on a été habitué déjà, pratiquement, on se battait pour que les gens aillent à la consommation de l'eau potable. Et je crois que ce défi-là, aujourd'hui, est relevé parce que, quel que soit le village aujourd'hui, chacun tient à consommer l'eau qui vient de la pompe. Donc, je crois que si le défi de ne pas consommer de l'eau de fleuve ou de marigot, il s'agirait pour nous maintenant de nous battre pour que cette population accède facilement à l'eau potable qui sera mieux pour la santé de la population.
Ok, maintenant, merci beaucoup,
nous,
monsieur le maire.
Le défi est vraiment élevé.
Merci beaucoup. Alors, Karim Dembélé, pourquoi on ne va pas vers le recyclage de l'eau, par exemple? Est-ce qu'il y a une loi qui parle de ces questions de recyclage d'eau usée, par exemple, au Mali?
Ok, bon, pour merci. Pour l'instant, je pense que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que sur le plan de gestion de l'eau, c'est une bonne idée d'essayer de voir des recycler. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour l'instant, nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'eau. Mais la première des choses qu'il faut, il faudra pouvoir donner l'eau, c'est-à-dire qu'à 100%, au moins 90% à la population. Et à partir de là, on allait voir essayer d'appliquer des programmes de recyclage de l'eau. Mais pour l'instant, honnêtement, je pense que je n'ai pas connaissance de la loi par rapport à ça et je ne pense pas que la loi se pense par rapport à la question de l'eau. J'ai lu le code de l'eau. Je n'ai pas connaissance d'avoir vu ce passage-là. Mais je pense que techniquement, aujourd'hui, je pense qu'on a... C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les ressources en eau sont assez disponibles au Mali. C'est-à-dire à plusieurs niveaux. Malgré que M. Guinou disait tantôt que c'est mal réparti, effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire que la majeure partie des ressources en eau sont concentrées au sud. C'est-à-dire que, essentiellement, le fleuve Niger. Le fleuve Niger qui parcourt le Mali à peu près sur 1700 km. Donc, c'est vraiment un potentiel énorme. Mais par contre, au nord, il y a des ressources en eau souterraines assez importantes. Comme le cas de Menaka. C'est des choses qu'on peut exploiter, c'est des nappes profondes. Monsieur le maire le disait tantôt, ce qu'il vient de dire, c'est des réalités aujourd'hui. Moi, je suis dans le secteur des forages, je sais réellement comment ça se passe. C'est une réalité. Il y a des forages qui ont été faits il y a environ, c'est-à-dire que 10 ans aujourd'hui, ces forages, il n'y a plus d'eau dans ces forages. Donc, il faut aller peut-être voir, l'État doit investir au maximum parce qu'il faut préciser que notre sous-sol est peu connu. en matière de salique d'eau souterraine.
D'accord. Monsieur Guindo, alors l'hydrogéologue pense qu'on n'a pas besoin d'aller vers le recyclage de l'eau usée au Mali. Alors vous, au niveau de la SOMAGEP, est-ce que vous pensez à une solution alternative?
Bon, par rapport au recyclage de l'eau, je pense que ça veut dire que si au niveau ressources, effectivement, on n'a pas de problème, mais il faut dire que on doit toujours aller vers la rationalisation de cette denrée-là. Et dans ce cadre-là, je pense que on peut, ne serait-ce que pour certains besoins en nous, penser à aller vers le traitement de ces eaux et de les utiliser pour, je dis, par exemple, les espaces verts, par exemple, pour, c'est pas d'autres utilisations de l'eau qui ne nécessitent pas forcément, qui va nous permettre non seulement de faire une économie d'eau potable, parce que les eaux qui sont utilisées pour arroser les espaces verts, puis ça va intégrer également une dimension environnementale par rapport à la gestion, en fait, de l'eau.
Ok, d'accord. Eau douce au Mali, comment éviter le drame? C'était le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Et nous disons merci à Ibrahim Guindo, directeur de la distribution à la SOMAGEP. Nous disons merci à Karim Dambélé, il est géophysicien et hydrogéologue. Il était sur le plateau en tant qu'analyste. Amara Traoré, nous te disons merci. Il est le maire de la commune du Gwandiaka. Alors, nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11. Et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Moumine Sendebou et mis en onde par Mamadi Keita. La régie vidéo était assurée par Peting Diara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et la coordination assurée par Mouhamadou Touré. À la prochaine.
Le grand dialogue. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Halud Mouni.
Chienne Beri, Sigi Kafoba.